Junior, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Quand avez-vous découvert que vous étiez en situation délicate et que votre vie pouvait être en danger? Vous étiez alors en RDC? Cela fait, remonte à quel moment exactement?
Donc, le problème, c'est que quand j'ai atteint un certain âge où je commence à avoir des attirances, et donc pour moi, c'était aux personnes du même sexe. Et donc, ça m'avait mis dans des situations difficiles. D'abord, j'étais dans le placard. Je ne voulais pas que personne ne sache ce qui s'est passé. C'était une situation très, très délicate au Congo, un pays où la majorité des personnes se croient chrétiennes. Donc, tout le monde va à l'église, même si quelqu'un vole durant la semaine, même si quelqu'un fait d'autres mauvaises choses durant la semaine, mais le dimanche, tout le monde part à l'église. Et j'ai grandi dans une famille religieuse où ma mère est pasteur elle-même. Et donc, j'étais comme en prison et je n'étais pas en sécurité. J'ai été tabassé à maître prise au Congo par ma propre famille. Ils m'ont tabassé, tout le monde. Parce que c'était quand mon militantisme a atteint un niveau où je commençais à essayer à contacter d'autres organismes. Comme j'avais contacté Amnesty International en Belgique, et donc j'ai contacté une organisation féministe qui s'appelle Si Jeunesse Savait à Kinshasa. Et donc j'ai commencé beaucoup, à beaucoup plus être défenseur des droits de l'homme, des personnes LGBT au Congo. L'environnement était très mauvais. J'étais tabassé même à l'université, écouter des professeurs comme notre professeur de sciences politiques et notre professeur de la psychologie. Le professeur de sciences politiques disait que c'est un impérialisme occidental. Le professeur de la psychologie disait que c'est une malade mentale. Mais nous tous, nous savons que l'Organisation mondiale de la santé avait déjà décriminalisé l'homosexualité comme maladie mentale depuis 1990, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est dans ce genre de cercle vicieux que j'ai vécu au Congo. Et ce qui m'a poussé de quitter le Congo complètement, c'est parce que ma mère voulait me tuer, donc c'était dur. Donc, je n'avais plus le choix de quitter le Congo et aller dans un autre pays où j'étais vivre librement. C'est parce que je croyais que ici, la vie est libre.
Et comment ça se passe présentement en Afrique du Sud? On peut imaginer que votre famille étant maintenant éloignée de vous, il y a moins de danger pour votre sécurité.
Il y a toujours des dangers parce qu'il y a des communautés comme ça, des communautés de ton pays, comme la communauté congolaise ici au Cap. Ils sont vraiment homophobes parce qu'il n'y a pas d'appui à la discrimination pour trouver le travail. Les gens te jugent à cause de ton orientation sexuelle, ils ne voient pas les qualités que tu as. Il y a la discrimination même à l'université. Je me suis trouvée dans une situation où je ne savais pas quelle toilette pour me soulager. Parce que j'ai demandé à une dame où est la toilette. Elle me dit, tu es un homme ou une femme, parce que tu dois choisir quelle toilette tu as. Et donc, si tu parles de la toilette des hommes, il dit, non, tu es une femme. Si tu parles que les femmes, il dit, non, tu es une femme. Donc, c'est une situation où la société, en anglais, on appelle ça hétéronormative. C'est comme une société hétéronormative. Il y a la patriarchie ici en Afrique du Sud. Ça rend la vie très difficile. Donc, pour vivre dans cette société, tu dois être un homme. Un homme, quand on parle d'un homme, tu dois être masculin, très masculin, ou une femme très féminine. Si ton genre va à la contre de ces principes, et donc tu es en danger. Tous les jours, j'ai été même tabassé par des policiers sud-africains récemment, où j'étais parti à la police pour rapporter une discrimination que j'ai subissée avec le propriétaire de la place où j'ai loué une chambre. Il ne veut pas que les gens viennent me visiter parce qu'il croit que, spécifiquement, il ne veut pas que les hommes viennent me visiter dans ma chambre parce qu'il croit qu'on va faire une abomination. Et donc, tout ce genre d'histoire, c'est vraiment très difficile. Je suis dans un cercle vicieux en Afrique du Sud et je ne sais pas comment est-ce que ça va marcher.
Est-ce que vous considérez le Canada comme une destination? Comment s'organise ce projet pour vous?
Définitivement, définitivement. Parce que c'est comme ça. Donc, si un pays de refuge ou un pays du premier refuge n'arrive pas à protéger un réfugié, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut référer un réfugié à un autre pays. On appelle ça la réinstallation ou la rélocation d'un réfugié dans un autre pays. Et donc, ce n'est pas à un réfugié de choisir le pays où il doit partir. Ça dépend du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui décide. quel pays? Mais parmi les pays, il y a le Canada, l'Australie et les États-Unis qui sont les pays vraiment qui reçoivent ces genres de demandes. Et donc, pour moi, on a choisi les États-Unis et je suis encore sur la procédure. Je dois avoir mon interview. Je ne sais quand. Et la procédure, ça prend longtemps. Ça peut prendre 2 ans pour y arriver, pour y aboutir. Et moi, j'avais commencé depuis novembre 2013. Et donc, je suis toujours en train d'attendre, hein, pour l'interview. Mais personne ne m'a jamais répondu, ni le commissaire général pour les réfugiés, ni les pays autres. Je suis toujours en train d'attendre, hein, pour mon interview.
Même si vous ne venez pas au Canada, même si ce n'est pas le Canada qui vous offrira ce refuge, ce sera les États-Unis. Il y a des Canadiens qui suivent votre parcours actuellement à Toronto qui vous aident en ce moment.
Oui, j'ai une famille canadienne. C'est une famille, un couple gay canadien qui sont à Toronto, qui ont lu à propos de mon histoire, ce qui s'est passé, ainsi de suite, et tout ce que je suis en train de subir en Afrique du Sud. Et donc, ils ont commencé à m'aider depuis 2011. C'est vraiment très difficile. Je suis dans un cercle vicieux en Afrique du Sud et je ne sais pas comment est-ce que ça va marcher.